Dynamique Radio. Dynamique Radio. Wow. Dynamique. La radio facile à écouter. Come on.
Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Dynamique Radio. On se retrouve, on est dans l'After School plus précisément, le programme de fin d'après-midi de Dynamique Radio. Et on a l'immense plaisir, j'ai l'immense plaisir de recevoir Martina Shiba pour la promotion de son dernier ouvrage Rendez-vous, sorti le 22 novembre aux éditions Fabre. Bonjour Martina.
Mais bonjour, et chez nous on pourrait même dire mais adieu,
adieu.
Avec l'accent.
D'accord, ok, très bien. Alors Martina, quel est le pitch de cet ouvrage Rendez-vous?
Alors le pitch, c'est une femme au début de la cinquantaine qui, sur un malentendu absolu lié à un site de rencontre, se retrouve sur les marches du Sacré-Cœur à Paris à rencontrer un inconnu et ça déroule un petit peu son histoire avec toutes les joyeusetés de la cinquantaine. Du style, j'ai une sale gueule quand je me regarde le matin dans le miroir. Est-ce que je me fais opérer des paupières? Est-ce qu'il faut que j'achète un appartement même si c'est pas recommandé après 50 ans? Mon histoire de cul va-t-elle se transformer en histoire d'amour ou pas? Ma mère va pas bien, je vais bientôt devoir, je pense, l'enterrer. De toute façon, ça va finir comme ça. Et si vous voulez, c'est plus, je ne parle même pas des histoires de boulot. Donc on a l'histoire de cette femme qui se déroule et cette histoire de relation homme-femme dont on ne sait pas très bien si ça va déboucher sur quelque chose. Et en parallèle, pour aider tout ça, elle consulte un psy. Mais alors, c'est un psy très particulier.
On aura l'occasion d'en parler. Ouais.
Puisqu'il ne prescrit pas de médicaments, mais il prescrit des œuvres d'art.
Et oui, on aura l'occasion d'en parler de cela. Alors, du coup, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Qu'est-ce qui différencie des autres?
Alors, il y a eu 10 ans entre le dernier roman et celui-là. Donc, c'est 10 ans...
De réflexion.
Oui, et surtout de vie, quoi, où j'ai vécu tout ce que je viens de décrire, c'est-à-dire des deuils, des divorces, des problèmes de boulot, des premiers pépins de santé. Je sais que votre auditoire est jeune, mais rassurez-vous, il y a un moment donné, les premiers pépins de santé, ils arrivent et ils arriveront.
Et
ça,
oui,
c'est
on peut
certain,
vous le dire.
Et tous les autres petits emmerdements aussi. Donc j'ai vécu tout ça, j'avais besoin de me nourrir et tout à coup, je me suis dit, tiens, c'est le bon moment pour raconter cette histoire avec ce psy en parallèle. Et puis, je dirais la différence, c'est que dans celui-là, j'assume d'avoir mis beaucoup de moi et beaucoup de tripes et beaucoup de cœur. Et...
C'est ça, c'est pas de la fiction en fait. Finalement, c'est un peu
une auto-fiction. Ouais. Ouais, c'est de l'auto-fiction, mais on va dire 75% d'auto.
Ouais.
En Suisse, on dirait 75, mais vous voyez, je fais l'effort.
75,
je dis
65, tout à fait.
75% d'auto et 25% de fiction à peu près.
Très bien, un peu de fiction. Alors, l'aspect auto, c'est la majorité du livre.
Oui.
L'aspect fiction, alors du coup, dans le livre, c'est...
Alors, l'aspect fiction, c'est assez...
Qu'est-ce qui a été fictionné?
Ouais. Alors, ce qui est totalement fictionné...
Ou
c'est
fantasmé,
le...
d'ailleurs, peut-être.
Et alors, les deux. Parce que, si vous voulez, moi, je n'ai jamais fait de thérapie. Vous me direz que je devrais peut-être. Ce sera peut-être le moment.
Peut-être pas besoin non plus.
Mais j'ai fantasmé ce psy... qui est très intelligent, est très beau, qui percute les gens tout de suite, qui vous prescrit exactement les œuvres que vous avez besoin de voir. Et malheureusement, il est totalement inventé. Et ce qui est très rigolo, c'est que j'ai fait beaucoup de dédicaces en Suisse et il y a des gens qui se penchent vers moi comme ça, d'un air de conspirateur et qui me disent « Le psy, là, il existe, vous avez son numéro, vous pourriez me le donner juste à moi ?» Et je suis obligée... Et je suis obligée de leur dire c'est le seul personnage qui est réellement totalement inventé.
Par contre, donc vos lecteurs, vos lectrices veulent peut-être le numéro de l'homme des marges du Sacré-Cœur.
Ah, mais je garde.
Comment va-t-il?
Mais je garde pour moi. Je ne donnerai pas.
Comment va-t-il cet homme-là?
Alors l'homme des marches du Sacré-Cœur, il n'a pas de nom dans le livre parce que c'est vrai que c'est un départ extrêmement chaotique. Et puis on suit une année de relation avec lui. Et je ne vais pas dire tout ce qui se passe, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il est toujours dans le circuit, que j'ai son numéro de téléphone, que je le vois souvent et qu'il va très bien.
L'amour prend une place importante aussi dans cet ouvrage.
Oui, alors une des questions, c'est, vous avez 50 ans, ensuite 60, 70, etc. Quelle place est-ce qu'il y a à cet âge-là pour une histoire d'amour, une histoire de sexe, c'est une vaste question, c'est un espèce de tabou. Oui, les gens de notre âge vont sur les sites de rencontres. Oui, ils veulent avoir une sexualité qui est encore vivante, qui est encore vibrante. Et c'était aussi un des propos de ce livre, de dire on va pas faire comme si tout ça, ça n'existait pas. Et donc, et ça, les gens sont reconnaissants parce qu'ils disent, ben voilà, on voit que, oui, on peut avoir 57 ans et aller au sex shop, et alors, c'est cool.
Ok, d'ailleurs, il y a une punchline hein, dans le bouquin. La cinquantaine, c'est la moitié de notre vie. À cet âge-là, les hommes se font virer et les femmes se font larguer.
Oui, ou les deux.
Ou les deux, oui, c'est vrai.
Oui, oui, il y a deux, trois choses sur cette génération des 50 qui est un âge objectivement assez compliqué, hein, parce que vous avez vos enfants qui grandissent, vos parents qui vieillissent, oui. Au boulot vous êtes considéré comme un senior, dans la vie on est un sur deux à être divorcé, donc il y a beaucoup de gens qui sont seuls, et une des questions c'est effectivement, est-ce que je refais ma vie, mais est-ce que je suis susceptible de trouver une histoire d'amour, est-ce que je suis capable de m'engager encore dans quelque chose, qu'est-ce que ça implique, parce que les valises du passé sont quand même assez lourdes. Et voilà, et c'est raconté sur un mode assez cash, assez rigolo parfois, et triste par d'autres moments. Et les gens me disent souvent, oui, ça m'a fait rire et ça m'a fait pleurer et provoquer des émotions. Ben, c'est assez agréable, quoi.
Et vous mettez la loupe aussi sur la fracture qui peut exister entre les cinquantenaires, mm-hmm, et la génération Z. Hein. Alors,
on est des boomers.
Ouais.
Alors moi, techniquement, je suis juste à une année d'être boomer. Hein. Donc je suis née en 1965,
okay.
Donc plutôt génération X. Mais après, il y a diverses définitions, puis de toute façon, on s'en fout.
Alors Z, c'est la dernière, du coup.
Z, c'est celle de mes enfants.
Okay.
Et donc, oui, on doit cohabiter avec une génération qui vit dans un monde anxiogène qui n'est pas facile, qui nous en veut aussi pour un certain nombre de choses.
Vous dites qu'ils sont hyper critiques.
Ils sont ultra critiques, ils sont très angoissés et les années Covid n'ont rien arrangé,
ouais,
on le sait. Donc il y a vraiment une Covid fatigue psychique aussi beaucoup. Et puis il y a tout ce qui tourne autour du genre, de la race, du climat, qui sont des thèmes qui sont extrêmement clivant et sur lesquels on s'attrape parfois. Et c'est normal, j'ai envie de dire c'est normal. Moi, ce que je déplore par moment, c'est une forme de culpabilisation ou de honte. Et ça, c'est des sentiments qui sont moches et que personne ne devrait avoir à vivre. Et j'aimerais que mes enfants ne se culpabilisent de rien et n'aient honte de rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir conscience d'un certain nombre de choses. Et ce que je demande aussi à cette génération, c'est d'accepter le débat. D'accepter qu'on discute, qu'on mette les choses sur la table avec humour, avec des arguments. Et souvent, ça peut, en tout cas dans le milieu professionnel, être assez difficile.
Et alors donc, la narratrice aussi se soigne par l'art-thérapie, hein, suite au conseil avisé de son psychiatre, vous l'appelez le psychiatre.
Son neuropsy,
neuropsy.
C'est un neuro et un psy. Mais alors, art-thérapie, c'est un mot qui est peut-être trop global. Maintenant, on aurait tendance à parler de muséothérapie.
Muséothérapie.
Ouais, parce que ça existe.
D'accord.
Les Canadiens sont précurseurs là-dedans, où ils ont des psys qui prescrivent des œuvres d'art, les Belges aussi. Et chez nous, en Suisse, je ne sais pas, en France, pourtant vous avez parmi les plus beaux musées du monde.
Notamment à Paris.
Ouais.
Pas que.
D'ailleurs, il y a des œuvres parisiennes qui sont présentées, enfin de musées parisiens. Et,
dans l'ouvrage.
Donc, cette muséothérapie consiste en fait à dire aux gens, voilà, vous allez faire la démarche d'aller voir in situ, c'est-à-dire sur le site où il y a la toile ou la sculpture, cette œuvre, et vous allez vous nourrir de ce qu'elle va vous apporter. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'éviter de dire on va au musée, puis on regarde le petit panneau là qui est à côté de la toile, puis on se dit ok, ça a été peint en 1888, c'est de l'impressionnisme, bah. Et and so what? Avec ça, on ne sait pas très bien quoi faire. Donc là, le propos, c'est de dire, je me renseigne un peu sur l'œuvre et je vais faire de ça un moment pour moi de développement personnel en disant, voilà, je regarde l'œuvre et qu'est-ce qui, dans cette œuvre, peut me donner de la force? Et il est prouvé que ça marche, que ça active des neurotransmetteurs dans le cerveau et que ça sécrète des hormones et qu'à terme, ça peut créer un bien-être, une forme de réparation. Et je trouve que c'est une démarche très intéressante que j'ai moi-même fait sans psy, quoi. Je me suis auto-prescrit des visites comme ça quand ça allait pas fort.
Très bien, c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans le livre. Vous le disiez justement, il y a même des œuvres tirées des musées qui sont présentes dans le livre. On vous laisse découvrir cela.
Tout à fait.
On revient à Martina dans quelques instants après une pause musicale. C'est Alison Glado, Un autre monde. Vous êtes sur Dynamique Radio.
Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
On est de retour à l'antenne sur Dynamique Radio avec notre invitée du jour, Martina Shiba, qui vient nous voir pour la promotion de son autofiction. Rendez-vous, voilà, aux éditions Femmes. Ça va toujours, Martina ?
Mais ça va super bien.
Allez, on va parler de toi parce que du coup, t'es suisse d'origine, hein, oui. C'est ça ? En l'occurrence, tu es arrivée sur ce territoire à l'âge de 3 ans suite au printemps de Prague. Alors, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce qu'était le printemps de Prague ?
Alors, bien sûr, le printemps de Prague, c'était une volonté politique de la part du gouvernement de ce qui s'appelait à l'époque la Tchécoslovaquie, de créer un socialisme à visage humain alors que le pays était du côté de l'Est du rideau de fer, sous la coupe de l'ancienne Union soviétique. C'est dur, hein, pour les jeunes de se remettre là-dedans.
La Russie aujourd'hui.
En 1968, ouais, il y avait plus de pays dans l'Union soviétique, mais disons, il y avait ces deux blocs de l'Est et de l'Ouest, avec le mur de Berlin au milieu, et on était en pleine guerre froide, et la Tchécoslovaquie voulait un peu plus de liberté, pour simplifier.
Okay. Oui.
Et évidemment, le grand frère russe n'a pas été très content de ces démarches, et donc à un moment donné, le 21 août 1968, envoyait des chars dans le pays pour remettre un peu d'ordre. Et à ce moment-là, la famille de ma mère, qui avait déjà eu pas mal de problèmes en 1948 lors des putschs précédents, a décidé de partir. Et mon père, comme j'étais déjà née, mon père a suivi. Et donc, ils sont partis le soir même.
En laissant tout
à pied,
tout
en Tchécoslovaquie. En laissant tout, toute la famille de mon père notamment, en Tchécoslovaquie, et l'idée première, la terre promise à l'époque, c'était d'aller au Canada.
Okay.
Et finalement, ils ont été en Suisse parce qu'il y avait quelqu'un de notre famille qui avait un ancêtre suisse.
Okay.
Et puis à l'époque, c'était moins compliqué qu'aujourd'hui de trouver du travail, un logement, etc., etc. Donc finalement, ils se sont installés à Genève et moi, j'avais 3 ans et demi.
Okay.
Et donc, j'ai fait toutes mes écoles à Genève et je suis désormais une vraie Suissesse et une vraie Genevoise.
Et dans votre jeunesse, vous avez été championne de tennis aussi?
Oui, alors plutôt par opportunité, parce que ma mère avait perdu son job d'ingénieur dans un des chocs pétroliers en 77.
Oui.
Et puis elle avait repris la buvette d'un tennis club.
Okay.
Et donc j'ai fait du tennis. Mais vous savez, être tchèque et s'appeler Martina...
Ben oui, c'est ce que j'allais vous dire. Le tennis, c'est une histoire de Martina, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc oui, j'ai fait du tennis à un niveau un peu semi-pro.
Top 30 des joueurs suisses quand même, à un moment donné, c'est
ouais,
ça
ouais. Donc, mais si vous voulez, c'était clairement pas... Mon idée de faire carrière, j'en avais d'ailleurs pas le talent. Et puis j'ai très vite compris que je voulais faire littérature, que je voulais travailler dans le monde des médias et tout, et que je voulais faire des études. Donc j'ai arrêté à l'âge de 23-24 ans et je n'ai plus jamais retouché une raquette de ma vie.
Mais est-ce que vous suivez le tennis quand même?
Non.
Non, pas
enfin,
du tout.
Si, non. Je suis journaliste et tout, donc je suis le tennis. Mais j'ai repris à 45 ans le sport qui aurait dû être mon sport, qui est la course à pied.
Oui, en fait, le sport, c'est super important dans votre vie. Hein.
Ouais, c'est important. C'est important parce que je pense que, comme on dit, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Si le corps ne fonctionne pas, je pense que l'esprit ne peut pas être aligné. Puis j'ai un fils aussi qui est athlète et qui fait du 110 mètres haies. Donc,
très bien.
Moi, je fais du bénévolat dans l'athlétisme et tout. Et maintenant, c'est plutôt ça, mon sport.
Ok, c'est noté. Alors d'ailleurs, vous pratiquez sur des...
J'ai fait deux fois le marathon de Paris.
Voilà, sur des longs trajets.
J'ai fait deux fois le marathon de Paris.
C'est 42 km et quelques le marathon, donc faut le faire quand même.
La première fois, c'était très dur. La deuxième fois, j'étais contente.
Moi, je fais 10 km déjà. Je suis au bout de ma vie. Alors 42, je ne vous dis pas. On revient à votre métier, hein, donc vous nous disiez 35 ans de journalisme. Hein,
ouais,
ça chiffre.
Toute une vie.
Ouais, bah, c'est une carrière, quoi. Et encore, en plus, elle n'est pas terminée, cette carrière-là. Donc en radio, en télé, en presse, vous êtes un peu notre Laurence Ferrari à nous, Martina, du coup.
Avec la différence que je n'ai jamais présenté le JT. Moi, j'ai toujours été plutôt dans les magazines.
Dans les magazines.
Dans des magazines de société ou aussi dans un magazine de type 7 à 8, comme ça, les gens peuvent situer.
Oui.
Et puis, si vous voulez, j'ai un côté. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit tu es un peu comme Christine Bravo.
Ok, d'accord.
C'est-à-dire,
oui,
j'ai un côté un peu déconnant, un peu comme ça. Ce qu'on retrouve dans le livre.
Il y a de l'humour dans le livre, si on tient à préciser.
Qui est, qui se match un peu avec le côté journaliste.
Donc, divertissement,
alors,
actualité.
Alors, oui, en 35 ans,
on fait beaucoup de choses.
On a le temps de faire beaucoup de choses, notamment au sein d'une télévision publique, parce que je travaille pour la RTS, qui est la chaîne. Public suisse. Et là, c'est vrai que j'ai travaillé dans l'actualité, dans les magazines, dans le magazine court, dans le magazine long. J'ai aussi écrit un peu de fiction. J'ai aussi travaillé dans le divertissement. Donc, ça fait qu'en plus de 30 ans, on ne s'ennuie pas, quoi.
Vous pouvez sortir en Suisse dans la rue sans qu'on vous demande un selfie ou quelque chose comme ça.
Oui, alors la Suisse, vous savez qu'on a beaucoup de stars chez nous qui viennent se planquer.
Oui.
Qui viennent pas seulement planquer leur argent, qui viennent se planquer aussi parce que, si vous voulez, le Suisse est extrêmement discret et on n'a pas du tout ce rapport à la célébrité qu'il peut y avoir chez vous ou dans d'autres pays. Et je précise aussi que, par exemple, à la RTS, notre statut est le même que celui des autres journalistes. Donc, en tant que présentateur, vous ne touchez pas plus d'argent qu'un journaliste, reporter et tout.
Okay.
Et ça calme un peu les velléités, si vous voulez, de bling-bling, de célébrité et tout ça. Et c'est très discret. On a des stars, par exemple, je ne sais pas très loin de chez moi, il y a un certain certain nombre d'années, il y avait Isabelle Adjani qui habitait, Aznavour et tout ça, personne ne les embête dans la rue. Clooney, Georges Clooney est venu lever des fonds en vieille ville de Genève à l'époque pour les élections américaines. Je crois qu'il y avait 3 personnes qui demandaient un autographe.
Okay.
Donc c'est très, très retenu.
Oui, en
très
France,
discret.
C'est pas possible. Ça.
Non, c'est pas tout à fait pareil.
D'ailleurs, en parlant de Suisse à la télé, sur LCI,
il y a notre ancien présentateur.
Ben oui, Darius Rochebain.
Absolument.
Qui est actuellement à la télé et qu'on ne connaissait pas, nous, avant de le voir arriver il y a plusieurs mois de cela.
Absolument, c'était le présentateur phare du JT, du soir. Exactement. Mais chez nous, il faut bien voir que nos ministres, parce qu'on n'a pas un président comme chez vous, ça change chaque année la présidence, mais nos ministres, les personnes du gouvernement prennent le tram, prennent le train, se promènent sans garde du corps dans la rue.
Oui,
c'est il n'y a pas le entre guillemets tralala qu'il peut y avoir.
Ce qu'on retrouve dans les pays nordiques, par exemple, aussi un petit peu.
Absolument, absolument, ouais.
Ok. Alors nous, c'est pas possible.
Non, c'est pas tout à fait pareil. Mais on suit beaucoup la politique française et ça nous amuse beaucoup.
Rien.
Ah, c'est très divertissant.
Très bien, très bien. Je voulais revenir avec vous aussi sur votre carrière. Écoutez, ce que je fais, c'est que je passe à un second titre. C'est Andy Abi, citoyen du monde, et on revient avec vous, Martina.
Mais volontiers.
On parlera aussi du process d'écrivaine. Allez, d'auteur avec un E, je préfère. A tout de suite, restez avec nous, on est en direct sur Dynamique Radio.
Quelle que soit la couleur de ta peau, citoyen du monde, tous nos cœurs battent au même tempo et osent se confondre. Quel que soit le sens de tes prières, citoyen du monde, la même voix et la même lumière viennent te répondre. Citoyens du monde, tous les murs, les murailles, les frontières s'éloignent et s'effondrent. Quel que soit l'endroit où tu es né, citoyen du monde, devenons tous des fauteurs de paix sur cette map monde.
De retour sur Dynamique Radio avec notre invitée Martina Shiba. Ça va toujours ?
Mais au top.
Au top de la... Au top.
Dynamique.
Dynamique, il faut toujours l'être. Et je crois que tu l'es en plus.
C'est ça.
À travers, déjà, tu fais du sport de ouf. Voilà, deux marathons de Paris, hein, s'il vous plaît.
Ouais.
D'ailleurs, en parlant de Paris, j'avais une question à te poser aussi. Tu es souvent à Paris, du coup ?
Bah, disons, depuis l'histoire des marches du Sacré-Cœur.
Allez, faut lire le livre pour cela.
Je vis entre Genève et Paris maintenant, oui.
Très bien. Et une carrière en France, est-ce que du coup, tu penses que c'est possible ou pas ?
Alors, on m'avait proposé il y a une quinzaine d'années de travailler pendant une période de 6 mois pour la chaîne Arte, par exemple.
Okay. Ouais.
Ce qui m'aurait beaucoup plu, mais j'avais des enfants encore jeunes et tout, et j'ai décliné, j'ai pas fait. Et donc, j'ai pas rêvé de ça, en fait. Maintenant, l'écriture, ça peut se faire n'importe où, ça peut se publier n'importe où. Donc,
ouais.
On voit plutôt quelque chose comme ça autour de ça.
Mais autour
de faire une vraie carrière de journaliste.
Ou une expérience, parce que plus qu'une carrière.
Je pense que ma carrière de journaliste, je suis plus près de la sortie que de l'entrée, n'est-ce pas ?
Ne dites pas ça.
Donc, encore que l'âge de la retraite recule régulièrement.
Oui.
Hein. Chez nous, il est déjà à 65 et il parle de 67. Donc, vous voyez.
D'accord, nous, c'est un peu moins le cas.
Chez vous.
Nous, on parle de 64, mais on n'est pas tous d'accord.
Chez vous, on va en discuter prochainement, n'est-ce pas ? Et donc, je ne sais pas, mais voilà, je suis très contente d'avoir fait un parcours de journaliste en Suisse, ça me convient très bien.
Puis les expériences, c'est au détour de rencontres, je m'imagine aussi. Hein.
C'est ça.
Alors, c'est quoi le process pour écrire de votre côté, du coup ? Vous mettez devant une feuille blanche et vous...
Alors, une feuille, non.
Non.
Je sais que je suis née à l'époque du crayon papier.
C'est un ordinateur.
Voilà. Mais la feuille blanche, non. Maintenant, je fais vraiment tout sur ordinateur.
C'est bien. Non, vous êtes moderne.
C'est par rapport à notre métier de journaliste, où il y a des délais, où ce dont on doit parler nous est dicté par l'actualité, par les témoignages, par l'extérieur. C'est évidemment plus difficile de dire, voilà, là, il va falloir que je pose mes tripes sur la table... sur le clavier en l'occurrence. Donc c'est une discipline. Et c'est une discipline qu'il faut s'infliger à un moment donné si on veut sortir un ouvrage de 200 pages, parce que sinon on n'y arrive pas. Et donc il y a des moments. On l'avait dit tout à l'heure, j'ai mis quand même 10 ans entre deux romans. Et là je me suis dit, voilà, maintenant les idées sont mûres, maintenant je me suis nourrie, je suis remplie, je suis prête à poser quelque chose. Mais ça suppose effectivement de dire tant de fois par semaine, il faut se mettre 2 heures, 3 heures, faire le vide dans son esprit et poser les idées assez rapidement. Moi, ce que je fais, c'est que je réfléchis beaucoup avant. Comme je cours, les idées se mettent en place quand on court. Essayez, ça marche assez bien.
Okay.
Et puis après, je me mets devant le clavier et j'écris, je jette un peu. Et ensuite, ce que j'adore, c'est la deuxième lecture. Où je vois qu'il y a quelque chose.
Oui,
mais... Et après, on peut... Voilà, c'est comme un marbre. Hein. On a le marbre, et puis après, on fait la sculpture, puis après, on polie, puis on fait les petits détails pour faire...
Je crois savoir que vous aimiez lire étant plus jeune.
Ah oui, oui, oui. Oui. Je me suis intégrée en Suisse, puisque je suis quand même arrivée sans parler un mot de français, hein, en Suisse. Je me suis intégrée par l'amour de la langue française, que j'ai d'ailleurs fini par étudier à l'université et par enseigner aussi. Et j'ai toujours adoré lire et écrire. Et quand j'ai trouvé un livre de Zola qui était Pobou il y a 14 ans dans une bibliothèque chez ma grand-mère, qui d'ailleurs lisait pas en français mais qui avait ses bouquins, ça a été une révélation et ça a dicté toute la suite.
Vos auteurs favoris ?
Alors,
vous parliez de Zola.
Voilà, il y a Zola. J'ai fait mon mémoire de licence. À l'époque, ce n'était pas des masters, on appelait ça une licence sur André Gide, qui est probablement une des plus belles proses de la langue française. Et puis, j'ai aussi beaucoup lu Balzac, Proust, etc. J'étais très dans le fin du 19e, début du 20e. C'était un peu ça ma période de prédilection. Mais après, je lis aussi beaucoup d'auteurs contemporains.
Un mot sur votre maison d'édition.
Alors Favre, c'est une maison d'édition qui se trouve dans le canton de Vaud, parce que vous savez qu'en Suisse on est divisé
en canton.
En canton, voilà, exactement. Et donc Favre, c'est le nom de la personne qui a créé cette maison d'édition, qui s'appelle Pierre-Marcel Favre, que je salue d'ailleurs, et qui a une vertu, c'est que vous savez, la Suisse c'est un tout petit marché. C'est très difficile de vivre d'édition parce que... Je dis souvent que la Suisse romande, c'est-à-dire la Suisse qui parle français, c'est quoi ? C'est un quartier de Paris, quoi. C'est un million d'habitants.
Ouais.
potentiel. Okay. Donc c'est très difficile de vendre des livres, de vivre de ça. Et Favre est une maison d'édition qui publie un peu de fiction, mais qui publie aussi des livres, des très très beaux livres de cuisine, qui publie beaucoup de développement personnel, de témoignages, de choses comme ça, et qui réussit l'exploit quand même de vivre de ces, des ventes de ces livres.
Il y a eux aussi
et ils ont fait un très beau travail là, parce que on s'est dit, est-ce qu'on met les tableaux et comment dans le livre?
Ouais.
Parce que c'est un roman, donc a priori, il n'y a pas d'illustration. Et là, ils ont fait un très beau tableau, on a demandé tous les droits, on a pris des belles photos des ouvrages, parce que je me suis dit, les ouvrages dont on parle, il faut que les gens puissent voir ce dont on parle et l'avoir vraiment sous les yeux.
Ouais, c'est
et
sûr.
Et ils ont fait un très joli travail d'édition.
Alors, rappelez-nous les œuvres qui sont présentes dans le bouquin.
Il y a Doramar de Picasso, il y a L'œil de Magritte, il y a une sculpture de Niki Saint-Phal, il y a une sculpture de Camille Claudel, il y a un tableau de Egon Schiele et puis il y a un tableau de Van Gogh.
Allez découvrir tout cela en téléchargeant
le livre,
notamment,
ou
en le demandant en physique.
Oui, il existe en e-book aussi.
Aussi, oui.
Ouais.
Bah, écoutez, c'est le moment des réponses.
Je suis très inquiète.
C'est le tac au tac. C'est le tac au tac. D'accord. Vous comprenez le principe du tac au tac?
Faut répondre tac au tac.
Voilà, on répond du tac au tac. C'est parti. Imaginez que vous deviez interviewer Poutine, par exemple. Si vous aviez une question à lui poser, ça serait laquelle?
Quand est-ce que ça s'arrête?
Une question à Zelensky, du coup.
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour arrêter ça?
Que pensez-vous des Français en Suisse? C'est quoi les... Qu'est-ce qu'on pense des Français en Suisse?
Alors, c'est très différent de dire qu'est-ce que vous pensez des Français et qu'est-ce qu'on pense
qu'est-ce qu'on pense des Français en Suisse?
Parce que moi, je suis très francophile. Maintenant, la relation franco-suisse est une relation d'amour-haine, qui est très compliqué. On a beaucoup de Français qui travaillent chez nous, qu'on appelle des frontaliers.
Oui.
Et donc, il y a pas mal de gens en Suisse qui pensent que ça fait baisser les salaires chez nous, etc., etc. Donc, il y a, si vous voulez, il y a du ressentiment vis-à-vis des Français. Il y a des fois un sentiment que les Français sont trop chauvins et tout. Donc, quand ils jouent au foot, il y a beaucoup de gens chez nous qui espèrent qu'ils perdent. Mais bon, nous, on est nuls en foot, okay. Donc on n'a rien à dire.
Pas tant que ça.
En même temps, pour utiliser une expression présidentielle française, on a un petit complexe d'infériorité culturelle. C'est-à-dire qu'on adore regarder ce qui se passe du côté de la France, on adore votre bouffe, on adore votre ville, vos villes, on adore votre art, on adore la manière dont vous vous engueulez, dont vous débattez, dont vous philosophez, et on en est un peu jaloux. Donc il y a tous ces sentiments qui sont un peu mêlés.
Et alors, quels sont les préjugés, selon vous, des Français par rapport aux Suisses?
Alors, ils pensent qu'on est lent, qu'on est emmerdant, qu'on s'ennuie en Suisse, que c'est cool et que c'est calme, mais que, voilà, ils pensent que dans notre vie, il y a essentiellement des montres, du chocolat et des banques.
Voilà, vous avez fait tous les préjugés, c'est bon.
Et des montagnes, voilà. Et ils pensent que tout est trop cher, et de ce point de vue-là, ils ont parfaitement raison.
Alors, boycott ou pas boycott de la Coupe du Monde?
Alors... Le mot boycott, j'aime pas. J'adore le sport. J'ai pas regardé grand chose parce que toutes les histoires m'ont coupé l'envie, simplement. Mais voilà, je pense qu'on peut pas demander à des sportifs dont c'est le métier de boycotter parce que c'est difficile et c'est un peu dégueulasse de leur faire porter cette responsabilité-là qui est une responsabilité politique. Maintenant, oui, que la Coupe du Monde se déroule au Qatar et que les Jeux Olympiques se déroulent à Pékin, c'est un problème.
Votre génico est un homme charmant car...
Alors d'abord, il est charmant parce qu'il est assez beau, vraiment, pour de vrai. Puis, il est très bienveillant avec moi.
Voilà. Il y a une phrase dans le livre, c'est le seul qui vous...
Oui.
C'est le seul devant qui je me déshabille en
cinq secondes. Oui, c'est ça. Après cinq minutes de conversation.
Voilà, tout à fait.
Exactement. Mais il se soucie toujours de moi, pas seulement pour des questions médicales, mais d'ailleurs, je le dis dans le livre, quand j'ai divorcé et tout ça, que j'étais dans le dur et tout, il me disait, mais vous avez quelqu'un en ce moment? Et je trouvais que c'était tellement chou de se préoccuper de savoir si j'avais une vie.
Peut-on plaire à tout le monde?
Non. Ça vous va là, tac au tac?
Du tac au tac, voilà.
Non,
ça
et
va.
C'est quelque chose que j'ai beaucoup enseigné à nos jeunes journalistes. J'ai dit, à partir du moment où on a la prétention de faire un métier où on s'expose, eh bien, il faut partir du principe que 50% des gens ne vont pas nous apprécier. J'ai dit, toi, tu n'aimes pas tout le monde, c'est normal, tu n'apprécies pas tout. Donc, il faut partir du principe que 50% des gens ne vont pas t'aimer et que 20% vont même te détester. Et il va falloir vivre avec ça, il va falloir s'épaissir le cuir et il va falloir le supporter. Et ce n'est pas toujours très facile, mais il faut.
Dès qu'on est une personne publique, en plus, c'est j'imagine, ça. C'est encore
ça.
Pire.
Et encore,
quand on
ne
passe pas à l'antenne, ça va, mais alors quand on passe à l'antenne, j'imagine...
Et encore, moi, je n'ai pas vécu la plus grande partie de ma vie avec les réseaux sociaux. Hein.
Oui, donc, parce que là, du coup, c'est là, encore complètement différent. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ces de réseaux sociaux, sexy ou selfie du coup? Parce que là,
les deux, mon capitaine.
On a appris des choses.
Les deux, mon capitaine. À part que les selfies, des fois, je peux les partager suivant comment. Les sexfies, non.
Une série à nous conseiller?
Alors, je suis en train de finir The Crown, que okay. je trouve vraiment très bien.
Génial. Pensez-vous que c'est choquant de fabriquer des êtres vivants uniquement pour les abattre et les manger?
Ah, ça me rappelle une phrase que... Ouais, oui. J'ai dit ça sur le plateau du JT, quand j'étais chef du service culture et société. Et il y avait des tas de questions. Bah, comme,
oui, j'en ai pris une parmi tant d'autres.
Comme dans tous les pays, il y avait des questions sur la consommation de viande. Et la question, c'est voilà, une des questions qui est très gênante et qui moi-même me gêne, c'est fabriquer des êtres
là, vous
vivants
nous interpellez.
Juste pour les abattre et pour les consommer. Et puis l'autre question qu'il y avait, c'était est-ce qu'on peut avoir un animal sur ses genoux et un autre dans son assiette?
C'est
dans
compliqué.
La même veine. C'est compliqué. C'est très compliqué.
Pour ou contre la brosse électrique?
Contre. D'ailleurs, il faut économiser l'électricité.
Oui, en plus, oui. Votre top 3 cinéma All of Time?
Alors, All of Time, top 3, je ne saurais pas, mais mon top 1, c'est Le Seigneur des Anneaux.
D'accord,
de
ok.
De Peter Jackson.
Ok.
Je ne suis pas une grande fan du cinéma à effets spéciaux.
Ok.
Mais honnêtement, je trouve toujours quelque chose de nouveau dans ce film. C'est un film sur le courage, sur la solidarité, sur la différence, sur... Il y a la guerre et moi, je me laisse volontiers faire par ces épisodes de guerre parce que le monde est aussi violent. Il y a très peu de figures féminines, mais c'est des figures extrêmement puissantes. Et puis, il y a Aragorn, qui est mon panthéon masculin, quoi, l'homme de mes rêves.
Vous aviez lu les
oui,
bouquins avant?
Oui, j'avais lu le bouquin avant, okay. Et donc il y avait une forte attente.
Oui. Et vous n'avez pas été déçu, parce que généralement, quand on lit un bouquin, c'est notre imagination à nous.
Non.
Et quand on va voir un film, c'est l'imagination du réalisateur et ça coïncide.
C'est ça, mais je trouvais que c'était magnifiquement fait. Et par contre, je n'ai pas regardé la série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime.
Ouais.
Parce que ce que j'en ai vu dans les bandes de lancement, dans les teasers, ça ne m'a pas beaucoup parlé. Et puis, ce que j'en ai lu après dans les critiques me fait penser que j'ai bien fait de ne pas regarder. Par contre, j'ai adoré House of Dragon. Vous disiez tout à l'heure série,
aussi,
le préquel de Game of Thrones est incroyable.
Ok. Peut-on imaginer d'ailleurs que Rendez-vous soit un jour adapté au cinéma?
Alors, cinéma, je ne sais pas. Série, je trouve que ça serait assez marrant parce que les personnages sont très typés et puis ils pourraient être développés. Et donc, il y a d'ailleurs plusieurs réalisateurs, puisque je suis dans un milieu audiovisuel, qui m'ont dit, mais pourquoi on ne ferait pas une série avec ça?
Autour de ça. Ouais.
Donc, on pourrait se poser la question. Et puis, l'autre chose qui, moi, me titille depuis un certain temps, j'aurais bien aimé écrire une fois pour le théâtre.
Okay.
Et je me disais, une adaptation théâtre pourrait être assez marrante aussi.
Ok. Une coproduction franco-suisse, pourquoi
mais
pas?
Mais ça serait cool, ça serait trop cool.
Quels sont les projets, Martina, pour la suite?
Alors... Une année plus calme.
Okay, oui.
Après les 3 années, vous savez, moi je dis plus bonne année là parce que.
Non, en ce moment, il faut plus.
En 2019, j'avais une année sale et j'avais dit je crois beaucoup en 2020. Vraiment, je mets beaucoup d'espoir en 2020, ce qui vous montre mes dons de voyance extra-lucide. Voilà. Et donc 2020, ça a été rude.
Notamment.
2021, ça a été rude. 2022, ça a été rude. Donc voilà, j'espérais une année un peu plus calme. J'ai mis beaucoup de choses en place l'année passée au niveau professionnel.
Okay.
J'ai commencé pour la première fois des chroniques radio aussi.
Okay.
J'en avais jamais fait sur Option Musique, qui est notre chaîne musicale de service public.
Okay.
Et ça s'appelle Sexe, Verveine et Rock'n'Roll, tout un programme.
Ça vous ressemble un peu quand même.
C'est... tout un programme. Et j'ai beaucoup à apprendre parce que je suis très contente de ce qu'on a fait. Mais je sens que voilà, c'est un nouveau média et que ça s'apprend. Donc voilà.
Eh ben merci Martina, c'était un plaisir de partager ces instants avec vous.
C'était super, c'était dynamique, c'était bien.
Bon bah écoutez, en tous les cas, on vous remercie. N'oubliez pas, allez consulter Rendez-vous. Hein. Vous pouvez le télécharger en e-book ou vous pouvez vous le procurer en physique. Rendez-vous aux éditions.
Il paraît qu'il fait du bien, donc voilà, c'est qu'on a besoin maintenant.
Eh ben oui, ça on peut le dire. Et puis c'est pas que il y a pas que les filles qui peuvent le lire. Hein.
Ah
c'est
non, j'ai beaucoup de lecteurs masculins et pas que des vieux.
Ok. Et vos réseaux, on peut vous retrouver sur vos réseaux en particulier ?
Alors, je suis sur LinkedIn.
LinkedIn,
on peut me suivre sur LinkedIn, ouais, exactement.
Très bien. Bon, bah, merci Martina.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
À bientôt.
Salut.
Salut.